RCF.
Bienvenue dans l'émission Éco-Protestant sur RCF Maglonero. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'architecture et à l'urbanisme, alors que la Biennale de l'architecture s'est ouverte à Venise jusqu'au mois de novembre. À vrai dire, nous n'avons pas vraiment d'équivalent en France. D'ailleurs, nous n'avons pas non plus de grands parcs d'exposition comme il en existe dans les pays anglo-saxons. Et c'est à se demander si l'architecture ne serait pas un peu le parent pauvre de la construction en France. Alors pour en parler, je reçois aujourd'hui Philippe Capelier. Bonjour Philippe Capelier.
Bonjour.
Vous êtes architecte, vous êtes également maître de conférences associé à l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier. Vous dirigez l'agence Blue Tango. On a l'impression qu'en France, il y a une sorte de prévalence pour tous les métiers de l'ingénieur et finalement l'architecture passe un peu sous silence.
En fait, c'est une particularité peut-être très française, cette fascination pour l'ingénierie, le personnage de l'ingénieur. Je vais remonter à Gustave Eiffel notamment, mais vous savez que la fierté que nous avons pour Concorde, l'Airbus, le TGV, voire les centrales nucléaires, et les autoroutes, les ponts, et on a l'impression qu'autant l'ingénieur, et tant mieux pour lui, est une personnalité immédiatement reconnue par la population française, autant l'architecte, lui, est beaucoup plus marginal. C'est-à-dire que on fait appel à lui pour deux choses, soit parce qu'on y est obligé par la loi, ce qui est une mauvaise façon, à mon avis, de penser la chose, soit parce que c'est une star et qu'on lui accorde une forme d'indulgence pour qu'il puisse exprimer librement son génie. En Europe du Nord, notamment, il n'y a pas de loi pour défendre l'architecture, mais par contre, il y a une culture généralisée de l'architecture et de l'architecte, ce qui fait que le moindre petite extension de sa maison, ben, on fait appel à un professionnel.
Alors, vous enseignez à l'école d'architecture de Montpellier. Finalement, est-ce que vous pouvez nous parler du métier de l'architecte à partir des matières qui sont dispensées, à partir de tout cet enseignement qui est prodigué à ceux qui plus tard seront architectes? Qu'est-ce qui fait qu'on a une qualification d'architecte finalement?
En fait, la question essentielle, c'est qu'est-ce qui distingue la construction de l'architecture? C'est une vaste question. Oui. Franchement, c'est une vaste question. Certains y répondent, c'est que l'architecture donne du sens à la construction. Moi, cette expression « donner du sens », je ne sais pas très bien ce qu'elle signifie. Ce qui est certain, c'est que nous nous inscrivons dans une longue tradition millénaire méditerranéenne de l'architecture. Certains disent que c'est la géographie particulière de l'Égypte, avec un fleuve sud-nord qui traverse un désert qui lui-même est croisé par la course du soleil est-ouest, qui veut donc que ce soit en Égypte qu'il y ait eu la naissance de l'orthogonalité, de la géométrie. Que donc les racines de l'architecture, cette espèce d'abstraction des formes née de l'Égypte et véhiculée par la Grèce, se développe par l'Empire romain, et c'est une tradition comme ça où au fond le projet précède l'acte de construire. On pense les choses, on mentalise les choses, on théorise même parfois les choses avant de les construire. Et en effet, on sent qu'il y a une espèce de volonté de dépassement, soit de dépassement technique. En effet, je pense aux cathédrales gothiques, forcément, qui sont un acte absolument prodigieux, qui n'a pas eu d'équivalent, du reste, parce que peut-être si la Renaissance était une espèce de progrès de la raison humaine, un développement de la raison humaine, l'architecture de la Renaissance est en retrait par rapport à ces œuvres magnifiques de l'art gothique. Mais l'art gothique, justement, est un symbole absolu de l'architecture, dans la mesure où à la fois il y a une technique qui transcende la construction, et puis il y a une volonté, on peut dire, métaphysique. Alors cette métaphysique peut être la poétique côté quotidienne, ça peut être le plaisir de vivre, ça peut être se tourner vers l'au-delà, ça peut être plein de choses. Mais c'est ça, l'architecture, c'est ce qui conjugue la construction et quelque part un domaine métaphysique.
Et alors du coup, si vous dites que l'architecture ne donne pas du sens à la construction, mais que cela relève quand même pour une part de la métaphysique, est-ce que vous diriez qu'il y a en quelque sorte un corps de doctrine en architecture? Est-ce qu'il y a une sorte de pensée systématique avec la possibilité d'établir des doctrines comme on en a d'ailleurs en religion?
Alors, parce que finalement, peut-être notre période se caractérise, en tout cas chez nous, dans l'Europe occidentale, peut-être par l'absence de doctrine, la fin des doctrines. On le voit bien en philosophie, on le voit bien aussi peut-être en religion, si vous voulez. Ce que S'il y a une doctrine, c'est ça. C'est qu'on conçoit d'abord les choses dans son esprit, et l'architecture est une façon de solidifier une pensée, une abstraction, ce qui est absolument extraordinaire. Alors maintenant, qu'est-ce qui serait une doctrine de l'architecture ? Aujourd'hui, avec la question du développement durable, qui est ô combien fondamentale, hein, ça je le remets pas du tout en cause, l'absolue nécessité écologique, non pas pour sauver le monde, mais pour sauver l'homme, parce que le monde pourra supporter ce que nous ne supporterons pas. Il y a quand même une espèce de pensée unique comme ça du développement durable, qui peut-être ramène un petit peu toutes les problématiques de l'architecture, de l'acte de construire et de son envie en quelque sorte poétique, qu'il ramène à des contraintes environnementales. Cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Il faut rajouter, bien sûr, à ces contraintes environnementales l'aspect fonctionnel. Donc, en effet, il y a des gens qui se battent pour une architecture de l'usage, une architecture qui fonctionne bien, qui se bâtit bien, qui est logique. Et puis après, il y a le développement des établissements urbains, autrement dit, la transformation de l'architecture en urbanisme. Et là, au fond, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement de doctrine. Depuis Le Corbusier, la charte d'Athènes, on est loin aussi des théories d'Ildefonso Cerdà pour Barcelone, il y a une absence de doctrine. Il y a peut-être une doctrine de la pratique. Ce qui est un petit peu cocasse aujourd'hui, c'est que si on voit par exemple les règles d'urbanisation écologique, pour faire simple, pour faire très simple bien sûr, mais bizarrement on revient presque à la charte d'Athènes, où en fait
expliquez-nous un peu cette charte d'Athènes.
Ah, alors la charte d'Athènes c'est une doctrine en effet établie par les stars, on dirait aujourd'hui, de l'architecture d'avant la Deuxième Guerre mondiale et puis de la période moderne, Le Corbusier, Mies van der Rohe, des gens comme ça qui réfléchissaient de penser la ville de demain. Et donc cette théorie était fondée sur une hygiène de vie. Il faut se rappeler qu'à la même époque, il y avait des logements un petit peu sordides, il n'y avait pas de toilettes dans les appartements, les rues étaient crasseuses. Et donc, ces gens-là, c'est enfin l'hygiène, c'est-à-dire le respect du corps, du soleil, de l'air, qui est amené cette idée que la ville serait une suite de gros immeubles réunissant 400 logements, à peu près, 400-500 logements, mais ces immeubles éparpillés dans la nature qu'on entretient, qu'on développe, ce qui fait qu'on retrouve la continuité végétale et du biotope, si vous voulez, entre les bâtiments, et on érige ça et là des espèces de grosses masses dans lesquelles les gens vivent avec de très beaux appartements, très ensoleillés, très ouverts, des services qui leur sont offerts à l'intérieur de ces immeubles, comme aujourd'hui l'idée se développe de coworking, d'écoles, de choses comme ça, mais avec un immense espace entre ces immeubles, c'est-à-dire on quitte complètement ce schéma de la rue, de la ruelle, de la placette, de l'esplanade. Non, on est dans un grand espace.
Ce qui n'a pas en fait été réalisé en France, parce que même la cité du Corbusier à Marseille est finalement isolée par rapport à tout l'environnement.
Oui, alors ça a été un petit peu, comment dire, dénaturé. Les UP sont des tentatives de la mise en œuvre de cette théorie, si je puis dire, hygiénique et fonctionnelle de l'architecture. Je pense qu'on a à côté de chez nous, à Montpellier, un exemple qui l'illustre très très bien, qui est pas dénaturé, ben, c'est la Grande Motte. Sauf que la Grande Motte est destinée d'abord aux loisirs, donc ce qui marche pour les loisirs l'été marche pas toute l'année. Pourtant, si vous recevez les témoignages des gens qui vivent toute l'année à la Grande Motte, ils témoignent combien c'est agréable, combien ils sont bien dans des immeubles entourés d'arbres, avec de grands espaces, avec des voies piétonnes, des voies cyclistes. Voilà.
Alors je vous propose une première pause musicale et puis on se retrouve pour parler justement des stars que vous évoquiez.
Come again, sweet love doth now invite thy graces that refrain to do me due delight to see, to hear, to touch, to kiss, to die with thee again in sweetest sin. To kiss, to die with thee again in sweetest sympathy. Come again that I may cease to mourn through thy unkind disdain, for now left and forlorn I sit, I sigh, I weep, I faint, I die.
Vous êtes dans Éco-Protestant, une émission de RCF Maglonero. Nous recevons aujourd'hui Philippe Capelier, qui est architecte. Cette musique que nous venons d'entendre, c'est une star, Sting, qui sort de son domaine de prédilection, qui sort de sa zone de confort pour une musique élisabéthaine qu'on n'attend pas dans sa bouche.
Ouais, c'est un disque que j'adore vraiment. Pourquoi ? Parce que Sting, en effet, grande rock star, bassiste et chanteur de Police, se tourne vers la musique dite baroque, hein, la musique élisabéthaine. Ça, ce sont des morceaux, des chants de Dowland. Et ce que je trouve formidable, c'est la sincérité. C'est-à-dire, il n'a pas essayé d'imiter le chanteur classique, le chanteur spécialiste, mais il détourne son timbre de voix, que je trouve moi fascinant, vers cette musique-là qu'il réinterprète totalement. Donc là, c'est une vraie réactualisation d'une musique qui est toujours moderne, au fond.
Est-ce que ce serait ça, finalement, qui fait la qualité de ce qu'on appelle les grands architectes, c'est-à-dire, au fond, cette capacité à ne pas reproduire ce qui se fait déjà, mais à inventer une nouvelle voie ou à inventer une nouvelle tendance ?
Oui. Moi, il y a véritablement une invention chez la plupart des projets des architectes stars. Alors, ils sont stars. Ils sont avant tout architectes. Ils sont avant tout obstinés. Ils sont avant tout combatifs. Ils sont avant tout dans un combat permanent pour se doter de tous les moyens qu'ils jugent nécessaires pour aboutir jusqu'au bout de leur pensée architecturale.
Qu'est-ce qui est le plus difficile finalement dans ce travail de l'architecte, dans ces combats qu'il faut mener?
Oh, ben d'abord, quand même, l'essentiel, quand même, c'est d'avoir quelques bonnes idées. Tous les architectes, comme partout ailleurs, tous les architectes n'ont pas forcément de bonnes idées. Mais déjà, il faut avoir de bonnes idées. Il faut savoir les exprimer. Et puis, il faut savoir surtout se donner les moyens de les porter. Notamment, dans le même ordre d'idées, moi, je prône pour qu'il y ait des cours de politique à l'école d'architecture de Montpellier. Parce que, en effet, c'est le politique qui, quelque part, décide toujours de l'architecture. Soit parce que il la commande, soit parce que il la contrôle par les réglementations, les plans d'urbanisme. Donc il est essentiel que les jeunes architectes aient des cours concrets de politique pour savoir où est le pouvoir, quels sont les interlocuteurs, quels sont les arguments à faire passer pour libérer l'imaginaire. Donc ces grandes stars de l'architecture comme Jean Nouvel, comme Rem Koolhaas, comme ce bureau que j'admire énormément, Sana, les Japonais, ce sont des gens qui en permanence ont des boîtes à idées comme ça, des laboratoires de formels, de matériaux, de mise en œuvre des choses qui sont portées par une obstination totale d'aller chercher des commandes, d'obtenir des commandes qui leur donnent les moyens d'aller au bout de leur idée. Et c'est là qu'on voit des choses absolument extraordinaires. On a la chance à Montpellier d'avoir des exemples comme ça de très beaux projets réalisés par des architectes stars, notamment l'hôtel de ville de Montpellier réalisé par Jean Nouvel et François Fontes, notamment l'arbre blanc dont l'architecte qui était le chef de l'équipe, c'est Su Fujimoto, un japonais, mais il y avait des architectes français, Lenné Roussel et Oxo, qui travaillaient avec lui. On a comme ça quelques exemples d'une architecture qui, nous, quelque part, bouleverse l'ordre établi. Ce côté subversif, c'est-à-dire que quelque chose me démontre qu'il y a un avant et un après de cette construction. Et je crois que la qualité la plus extraordinaire pour l'architecture, c'est l'évidence. Une espèce de sentiment que cette chose qui nous surprend, ben, pouvait pas y avoir autre chose à la place.
Et pourtant, vous dites que c'est un travail énorme parce qu'au fond, il faut transcender l'état actuel de la réalisation.
Voilà.
Ça devient une évidence, mais avec un travail énorme.
Voilà, mais c'est surtout qu'il faut que le résultat soit l'évidence parce que tout le parcours est très complexe. Mais je vois, si vous voulez, j'ai été associé avec Zaha Hadid pour Pierre Vive, avec laquelle donc j'ai travaillé, et il y a une espèce de recherche, de spéculation comme ça, intellectuelle permanente pour renouveler les formes, pour renouveler les matériaux, pour se doter d'outils différents, pour mettre en forme le béton d'une certaine manière, les verres d'une autre façon, les sols d'une troisième façon.
Est-ce que justement vous pourriez nous dire un peu, pour nous aider à développer notre regard sur l'architecture, ce qui pour Pierre Vive est quelque chose qui souligne qu'il y a une réalisation qui est à la fois évidente, réussie et qui est la signature d'un grand architecte?
Eh bien la première chose qu'il faut conseiller aux gens de faire, c'est déjà d'y aller. Okay.
Ah,
et le simple fait d'entrer dans Pierre Vive est une émotion spatiale véritable, comme on peut la ressentir quand on rentre dans une cathédrale. Je m'explique. Il y a un immense parvis comme ça minéral avec un bâtiment qui est hors échelle. Il fait plus de 200 mètres de long. Hein. Et donc l'entrée se situe dans un espace compressé. C'est-à-dire on a une espèce de bloc, un immense bloc de béton au-dessus de sa tête qui est là à 2 mètres 50 au-dessus de notre tête. On rentre sous ce bloc de béton, on se sent tout petit pour découvrir un hall qui est comme une cathédrale, qui est un hall sur plus de 12 mètres de haut avec des volutes de verre, d'acier, de forme. On a l'impression, on ne sait pas si on est à l'intérieur d'une cathédrale ou bien d'une grotte, et on a cet effet de compression-décompression est absolument hallucinant, quoi. Voilà, donc on a un bâtiment qui est à proprement parler extraordinaire. Alors bien sûr, ces bâtiments, ils ont les défauts de leur qualité, c'est-à-dire à partir du moment où ce sont des laboratoires pour de nouvelles mises en forme, de nouvelles pratiques, ben ça bouscule nos habitudes, notre façon de voir, soit de façon positive, soit de façon peut-être parfois dérangeante négative. Mais je pense qu'il faut dire aux gens de se laisser aller au plaisir de l'architecture, être rentré dans un lieu, l'apprécier dans sa totalité. Et sa totalité, c'est son volume, ce sont ses formes, et ce sont aussi ses sons. Un bâtiment résonne d'une certaine façon, il est feutré, il résonne. Ce sont ses matériaux, ce sont ses couleurs, ce sont ses textures. Et petit à petit, apprendre à voir l'architecture, c'était un livre que je lisais quand j'étais étudiant. Voilà, on apprécie les choses comme on apprend à apprécier un plat succulent, une gastronomie sophistiquée. Ben, il faut apprendre, se laisser porter, apprendre à apprécier l'architecture.
Oui, vous en parlez finalement comme d'une sorte de poétique. Il y a une sorte de poétique de l'architecture qui nous permet de découvrir que l'architecture n'est pas simplement dans un cadre fonctionnel, mais elle est là aussi pour provoquer une émotion et peut-être pour, en philosophie on dirait, pour nous faire exister, c'est-à-dire pour nous faire tenir en dehors de notre corps, en dehors de nos habitudes. Il y a une sorte d'expérience de transcendance de notre condition.
Oui, alors ce que simplement je veux souligner, c'est que tout cela n'est pas linéaire. Si vous voulez, il y a pas une espèce de d'entonnoir à cause qui est un tuyau qui débouche sur des conséquences. C'est plus complexe et dans le temps et dans l'histoire et dans les process. Autrement dit, il y a des émotions spatiales formidables dans des fermes du Lot, des granges de l'Aveyron où il n'y a pas eu présence d'architecte. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais la construction elle-même, par les usages, par les pratiques des maîtres maçons, par les fonctionnaires, nous crée des espaces qu'aujourd'hui on recherche quand on part en vacances, si vous voulez. Il y a le plaisir d'être à Portofino au bord de la mer dans ces maisons colorées, comme il y a le plaisir de rentrer dans le Grand Palais, d'être sous ces verrières absolument énormes.
Alors nous allons faire une deuxième pause musicale avec une autre star de la world music et puis on se retrouve juste après. Vous êtes dans l'émission Éco-Protestant, une émission de RCF Maglonero. Nous sommes avec Philippe Capelier, qui est architecte et maître de conférences associé à l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier. En entendant cette musique, Philippe Capelier, vous pensez à quelle architecture ?
Ah, je pense, si, je pense tout de suite à Rural Studio. Alors cette musique, c'est l'album Big Blue Ball qui a été produit par Peter Gabriel, et c'est la notion de world music avec des architectes européens, africains, asiatiques. Donc pourquoi Rural Studio? Rural Studio, c'est une expérience formidable. Honnêtement, je sais pas où ils en sont aujourd'hui. C'était lié à un enseignement de l'architecture, et c'est des gens qui construisaient pour les pauvres. Ce sont des architectes américains, des étudiants qui construisaient pour les populations les plus pauvres des États-Unis, des sans-abri. Et pour ce faire, notamment, il y a la récupération d'objets, de matériaux, dans des charges, telles que, par exemple, ils ont créé une chapelle avec dont les vitraux sont constitués d'un assemblage de pare-brise automobile qu'ils ont récupéré dans une casse. Et j'aime beaucoup cette architecture parce qu'elle n'est pas péremptoire, elle est profondément humaine, et elle montre que le bricolage peut avoir une espèce de génie formel. J'encourage les gens sur Internet de retrouver Rural Studio, les photos de ce qu'ils font, et vous verrez qu'il y a des projets absolument épatants. Et qui sont en plus construits conjointement par l'architecte, des ouvriers et les gens pour qui on construisait.
Alors, on peut évidemment bricoler, mais quand on est à l'échelle d'une ville, je pense par exemple à la ville de Montpellier, on imagine mal que chacun bricole dans son coin, on imagine qu'il faut plutôt des plans d'urbanisation généraux. Est-ce qu'il existe des choses pareilles à Montpellier? Est-ce qu'on a une sorte d'intention, une sorte de politique d'urbanisation qui serait lisible?
Elle est tout à fait lisible. Montpellier a été une des premières villes à comprendre combien l'architecture et l'urbanisme étaient déterminants à la fois pour organiser la cité, donc par là même la vie sociale à l'intérieur de la cité, et pour communiquer à l'extérieur la cité. Je pense que Georges Frêche, vers qui on revient forcément, je veux dire, avait compris ça avant tout le monde, en confiant à Ricardo Bofill, qui à l'époque venait de perdre le concours des Halles à Paris, en confiant à Ricardo Bofill la réalisation d'Antigone, où à la fois il s'attachait des services d'une certaine compétence, même si c'est peut-être un petit peu démodé tout ça. Mais surtout, il savait qu'en faisant appel à Ricardo Bofill, ce projet allait être publié dans le monde entier. Donc le nom de Montpellier serait porté dans tout un tas de médias culturels dans le monde entier, si vous voulez. Raymond Dugrand, qui était le géographe, qui était vraiment le porteur d'une doctrine comme ça, de maîtriser la croissance d'une ville. Pour ce faire, il faut d'abord maîtriser les terrains, ce qui est pas, bien sûr, on peut pas maîtriser tous les terrains, mais comme ça, on a une intention qui précède la construction de 20-30 années. C'est absolument extraordinaire.
Quelle était l'intention, justement? Parce que, certes, un nom est important pour se faire connaître, mais ça ne fait pas la qualité du vivre ensemble. Est-ce qu'on peut voir un petit peu, justement, quelle était cette intention qui a été portée?
Alors, c'est très clair. Antigone, c'était l'antinomie de Polygone. C'était bien sûr l'héroïne de antique, mais c'était faire le contraire de Polygone. Polygone, c'est l'urbanisation commerciale des années 70, c'est-à-dire on fait un grand centre commercial, des tours autour, des parkings, comme on l'a fait à la Part-Dieu par exemple, et on pensait que tout ça c'était le bonheur de tous, le bonheur de la consommation. Et alors donc il a par ce biais, par Ricardo Bofill réfléchissait à notre production de la ville, notamment avec des références à l'histoire. Il a construit comme ça des quartiers autour de Paris. Donc il disait, ben voilà, on peut produire une nouvelle cité dans laquelle les rapports ne sont plus verticaux mais sont horizontaux, dans laquelle il y a une urbanité entre les immeubles et non pas des dalles remplies d'auto, dans laquelle il y a des commerces en pied d'immeuble et non pas des grands supermarchés, et on peut boire un café en terrasse et non pas dans une cafétéria à l'intérieur d'un centre commercial. Voilà ce que ça voulait dire, premier point. Et deuxièmement, il y avait une revendication. Bofill avait fait au port de Paris un projet qui s'appelait le Versailles pour le peuple, c'est-à-dire on donne aux plus pauvres des logements de la même qualité que ceux qui ont plus de moyens. Donc une urbanisation comme ça qui est plus, comment dire, peut-être théâtralisée, peut-être mise en scène, et donc le risque en effet c'est qu'on est moins sur un principe que sur une forme urbaine, et avec le côté quand même démodable et dans l'usage et dans la forme. Et aujourd'hui justement c'est passionnant, et avec notre nouveau maire, la Michael de la Fosse, où il y a vraiment la volonté que l'urbanisation de la ville soit présidée par les impératifs du développement durable. Donc il est en train de se passer une petite révolution là-dedans. là-dedans, même si les grands axes, c'est-à-dire la croissance de la ville vers la mer, la reconquête des zones commerciales pour des logements, etc., tout ça n'est pas remis en cause, mais est en train d'être complètement réorienté.
Alors, vous évoquez justement l'importance des maires, des municipalités. Est-ce que l'urbanisation est finalement le seul fait du politique, ou est-ce que l'urbanisation, c'est d'abord le fait de la promotion immobilière, et on imagine plutôt des gens avares de produits financiers, de remplir leurs poches?
Et il faut là comme ailleurs, il faut qu'il y ait un équilibre entre les intérêts privés.
Est-ce qu'on arrive à avoir cet équilibre entre les intérêts financiers des uns et puis le désir d'organiser le vivre ensemble des autres?
Par exemple, par entre guillemets des gabarits pour contenir, si vous voulez, la croissance urbaine. Par exemple, des règles qui limitent le nombre de niveaux, qui limitent la densité sur un terrain. Par exemple, des règles qui font que on garde des espaces verts autour des logements au lieu de tout construire pour rentabiliser les terrains. Moi, je conseille à toutes les personnes qui se plaignent des contraintes d'urbanisme qui sont à peu près générales en France d'aller visiter des pays comme l'Angleterre, par exemple, où il y a des quartiers qui sont, j'allais dire livrés, ça serait une intention, qui sont laissés à l'initiative spéculative, et on voit les conséquences que ça peut avoir de au niveau de la qualité.
Y compris
des
le principe de la cage à lapins avec des appartements trop petits pour le nombre de personnes.
Oui, alors ça, la question de la taille des appartements, là pour le coup, vous touchez là une vraie question. En plus, le confinement a révélé combien cette question est aiguë. Moi, je pense qu'il faudrait qu'aujourd'hui le législateur impose des normes minima pour les logements. Jean Nouvel disait que le premier confort d'un logement, c'est l'espace, et je pense qu'il a totalement raison. On ne peut pas, si vous voulez, on tente aujourd'hui à réduire la taille des logements. Si on continue comme ça, on va se retrouver comme les Japonais, quoi. C'est-à-dire que toute vie sociale ne pourra plus être chez soi parce qu'on n'a pas à la place. Et ça, vraiment, je pense qu'il n'y a que la loi. À un moment donné, il faut qu'il y ait un arbitrage des représentants de la communauté pour dire là, maintenant, ça suffit. Voilà, un 3 pièces, ça ne peut pas descendre en dessous de 66 mètres carrés, parce qu'aujourd'hui, on est même en dessous de 60, par exemple. Et c'est préjudiciable, surtout quand le confinement impose qu'on reste chez soi et qu'il y ait une proximité plus permanente entre ses enfants et ou la personne avec qui on vit.
Est-ce qu'il y a un projet d'urbanisation quelque part dans le monde qui vous stimule, qui vous intéresse et que vous aimeriez partager avec les auditeurs pour justement aiguiser un petit peu leur connaissance de l'urbanisme, de projets de développement d'une ville, d'une zone?
Oui, alors déjà visiter les nouveaux quartiers de Montpellier, c'est quelque chose là du reste demain. Je dois faire visiter ces nouveaux quartiers à un groupe où pour le coup, il s'agit pas d'être franchouillard, mais pour le coup, c'est vrai que Montpellier fait partie des villes qui sait toujours maîtriser sa croissance. Il y a d'autres exemples comme Bordeaux, il y a d'autres exemples comme Nantes, il y a d'autres exemples comme Lyon. Il ne s'agit pas, bizarrement, du reste, c'est pas toujours le bord politique qui décide ça, mais on sent qu'il y a une maîtrise de l'accroissement de la ville, de l'augmentation des constructions de la cité. Lyon, sur la presqu'île, là, il y a un énorme projet d'urbanisation dont la deuxième tranche est confiée à l'agence suisse Herzog & Meuron, où là on a un autre exemple de d'organisation urbaine qui du reste n'est pas toujours de bonne aloi. Notamment on a parfois des alignements d'immeubles, on dirait que c'est un concours de celui qui fait le plus gros projet, mais ceci étant des quartiers qui sont quand même drôlement intéressants parce qu'agréables à vivre, bien équipés, bien desservis, et donc tous ces quartiers où on essaie de promouvoir bien évidemment le transport en commun plutôt que l'automobile.
Très bien, alors l'été sera l'occasion pour chacun de pouvoir faire un peu de découverte en levant le nez et en profitant d'une architecture peut-être avec un regard renouvelé. Merci beaucoup Philippe Capellier. Je rappelle que vous êtes directeur de l'agence Blue Tango et que vous enseignez à l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.